créer un égo dans les quoi je cherchais à présenter le modèle. Parce que le modèle nordique, c'est aussi des circulations, si vous voulez, d'idées entre les différents pays. Et au travers du Conseil nordique, ils ont construit ensemble ce modèle. Je n'en ai pas parlé non plus, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mais c'est vrai que ce nationalisme est très fort. Ça explique aussi que les social-démocraties elles-mêmes soient des partis très nationalistes, des partis particuliers en Finlande, mais aussi effectivement en Norvège. Hein, donc cette dimension est à prendre en compte. Maintenant, ce n'est pas parce que les gens sont nationalistes qu'on a créé un modèle nordique. Hein. C'est pas la cause nationale se protège en compte. C'est bien un vrai problème social. Et à cette époque, dans les années 30, après les fusillades d'Allemagne, c'était pas patron ouvrier tout suivi autour de la nation suédoise. C'était patron signé ou point de suspension. Vous comprenez ? Donc il ne faut pas nous confondre. Maintenant, c'est vrai que la social-démocratie a joué aussi la carte nationale en montrant justement que l'idéal national, c'était aussi un idéal social rassemblé des deux groupes. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a de fortes différences dans l'adaptation des modèles d'un pays à l'autre. Hein. Les rythmes sont différents. On a vu que la Suède a commencé plus fort et plus tôt. Alors que ce n'était pas forcément là que les sociodémocrates étaient les plus puissants, en tout cas en pourcentage des votes. La Norvège est arrivée un petit peu après, avec Danemark, souvent ils ont un rythme un peu. Mais par contre, vous voyez, la Finlande et l'Islande, c'est plus dans les années 50 et surtout 60 que le compromis s'est fait. En Finlande, d'ailleurs, souvent la social-démocratie a un rôle de frein. Et les agrariens étaient souvent plus d'accord avec les communistes dans les années 50-60 sur la manière de créer le système de retraite pour tous. Parce que les communistes et les agrariens ont défendu la retraite pour les ouvriers agricoles et les paysans. Et cette retraite pour les paysans, les sociodémocrates étaient des urbains avec une clientèle ouvrière assez refermée sur elle-même. Ne souhaitait pas voler en fait une retraite universelle. Donc, alors dans chaque pays, il y a comme ça des spécificités. Hein. L'Islande aussi est plus lentement, parce que le premier gouvernement de gauche en Islande, c'est en 1956. Et d'ailleurs, c'est une alliance entre la Venstre, donc la gauche, ça ne s'appelle pas Parti progressiste, mais c'est une Venstre. Un peu radical, et les sociodémocrates et les communistes, enfin les communistes, on appelle ça le Parti socialiste de gauche, je ne sais pas, on fait alliance à ce moment-là. Donc c'est plus déchiré, vous voyez, en Finlande vers les années 60-70, voire même 80, donc il y a une réforme très importante, en fait, une vraie réforme, on ne pas assez, souvent fait des régressions permanentes, mais une vraie réforme, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser dans les années 80. Oui. Le destin gauche classique, c'est souvent, sinon allié, du moins à repris dans ses programmes les préoccupations écologiques. Bon, je ne sais pas, c'est avant qu'il se passe en ce moment en France, hein, c'est plutôt aux dernières élections, ça fait vraiment, c'est devenu quelque chose de plus avoué officiellement. C'est vrai aussi que à gauche, les partis sociaux-démocrates, ce qu'on appelle les Verts là-bas, ont joué en gauche. Maintenant, tous les partis verts ne sont pas des partis progressistes. Ils le sont en Islande, où ils sont en alliance avec les anciens communistes et les socialistes de gauche, où ils sont puissants enfin, ensemble. Par contre, en Finlande, le parti vert est plus un parti que je pourrais qualifier d'anarcho-centriste. Vous voyez, c'est plus je développe mon individualité, etc. Ils ont d'ailleurs des députés particuliers à temps. Ils sont très originaux. J'en avais rencontré une dans le train, comme ça, un peu pintée. Les puissants lèvres, je me réjouissais un peu, monsieur. Quand j'ai su qu'elle était députée, j'ai été un peu embêté pour elle. Pareil. Puis alors, vous imaginez le protestant, de toute façon, j'ai pas les faux culs, là, mais j'ai pas un œil dessus. Pour connaître. Le rôle de l'Union soviétique est assez limité, hein, à part en Finlande où le Parti communiste. était prêt, a été très lié pour des raisons historiques, parce que les Rouges ont pu fuir là-bas. Bon, maintenant, les rapports entre les communistes finlandais et les communistes russes n'étaient pas très faciles, puisque j'ai perdu deux grands-oncles massacrés au Goulag à la hache en 1937. Et c'était les vrais Rouges, hein, tu vois. Donc, c'est des rapports. Je ne crois pas que, si vous voulez, le modèle soviétique ait fasciné à ce point-là les Finlandais. Maintenant, dans les années 70, les forces, vous qualifiez de progressistes, par exemple dans un pays comme la Finlande, étaient tout à fait développées. Le Parti communiste était un parti puissant. Mais en Finlande, il y avait un parti communiste, le SKP, mais en fait, électoralement, il se présentait avec les sociaux-démocrates de gauche, hein, depuis 1945. Ça s'appelait SKDR, la Ligue des démocrates populaires. Ils sont restés très puissants. Jusque dans les années 80, et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le parti de gauche, enfin l'union de gauche, c'est la partie issue de ces mouvements. Il n'est pas négligeable, il a quand même perdu la substance. Hein. Et c'est un parti qui a longtemps perdu l'électorat par mort de ses adhérents ou de ses sympathisants, ce qui est quand même peu rassurant. C'est maintenant un parti social-démocrate, bon, plus à gauche que les amis de Schröder, mais enfin, ce n'était pas non plus extraordinairement progressiste. D'ailleurs, par exemple, au Parlement européen, il travaillait un peu avec la GUE, tout en étant dedans, sans être dedans, tout en étant dehors, les contorsions, c'est un peu difficile à suivre. Alors, dans les années 70 aussi, il faut bien rappeler que, par exemple, en Suède, un secrétaire général, Olof Palme avait une certaine originalité de pensée, c'est-à-dire qu'il croyait beaucoup à la troisième voie, le capitalisme économique. Il a été le principe. Hein. Tu vois ? Bon, maintenant, dans les années 70, il valait peut-être mieux habiter quand il était ouvrier, il valait peut-être mieux habiter dans les pays du Nord, hein, quand même, tu vois, au niveau salarial, au niveau des acquis sociaux, c'était quand même plus solide. Hein. C'est clair. C'est pas un hasard s'il n'y a pas eu de 68 marqués dans ce pays, tout simplement, parce que les ouvriers étaient très fiers de ces gens. Hein, quand j'étais dans ma famille, j'ai des gens du peuple, j'étais avec mon grand-père, tout ça, il avait des yeux brillants de fierté en disant, regarde ce qu'on a tout ce truc. Hein? C'est vrai que lui, à l'âge de 8 ans, quand il a suivi l'été de la conquête, parce qu'il était intelligent, son père a dit, bon, tu sais lire, tu sais écrire, tu sais compter, ou non. Mais pas de choix, il fallait subir. Donc le gossier est allé, et puis il voyait, quand il avait 80, 90 ans, bon, ben, il a vu ce qu'il avait construit, il était fier. Maintenant, il serait moins fier. Malheureusement. Plus grand chose. L'attrait pour la culture américaine a été très fort. Dès les années 60, en Finlande, par exemple, on le voit au travers des groupes de rock, on le voit au travers des modèles que les jeunes avaient, vestimentaires, etc. Il y avait beaucoup plus de fascination pour l'Occident anglo-saxon que pour, par exemple, le Luxembourg. Bon, c'est vrai que vous voyez des gens qui votaient très à gauche, etc. C'est quand même des pays qui sont très occidentalisés. Et une partie de l'explication qu'on peut voir de l'adhésion précoce du Danemark et de la Norvège à l'Alliance Atlantique hein, vient du fait aussi que ces pays ont souvent, ont toujours pratiqué avec la Grande-Bretagne et les États-Unis des échanges économiques très importants. Pareil en Suède, pareil en Finlande. N'oubliez pas non plus que l'émigration était extrêmement forte à la fin du 19e, au début du 20e. Il y a des régions entières du nord des États-Unis. Moi, j'ai enseigné à Madison, donc c'est dans le Wisconsin. Et à Madison, je parlais plus souvent finnois qu'anglais, la langue de merci, parce que c'est plus facile pour moi. Mais je dois vous dire que c'est alors, maintenant qu'ils sont rentrés dans l'Europe, moi, je ne vois pas de changement particulier. Ils rentrent d'ailleurs dans l'Europe, vous savez que les négociations ont été très longues, hein, et à plusieurs reprises, ils ont cherché à rentrer. Les premières fois, ils ont demandé à rentrer dans l'Europe, c'était en 61. puis il y a de nouvelles tentatives en 1976, puis en 1972, avec bon, le Danemark. Japon, au départ, d'ailleurs, l'Europe ne voulait pas de l'eau, parce qu'on posait trop de conditions. Et puis dans le parti social-démocrate dominant, il y avait des gens qui étaient rétifs, parce qu'ils se rendaient bien compte que rentrer dans l'Europe, c'était rentrer dans un système libéral où les droits sociaux n'étaient pas forcément les mêmes. Donc il y avait des divergences justement à ce sujet. Et puis, ensuite, le Danemark est rentré en premier, il n'avait pas bien le choix parce que c'était soit on continuait à vendre en Allemagne, qui est le principal client pour les produits agricoles avec l'Angleterre, soit on laissait les Hollandais seuls, qui sont rentrés pour des raisons strictement économiques, sans enthousiasme, sachant que ça allait les aider. Par contre, vous voyez, les Norvégiens ont refusé plusieurs fois. Et chez les Finlandais, par exemple, alors là, ils cherchent aujourd'hui à masquer cette intelligence socio-démocrate. C'est un copain qui a fait un lièvre en fuyant là-bas. On est bien vu, parce que je suis allé souvent dans les archives ouvrières, hein, sur cette archives social-démocrates. Alors j'ai souvent été travailler. Alors des fois, on laissait accéder à des papiers, puis mon copain est allé voir les papiers. Il faisait une petite recherche sur justement les dirigeants sociodémocrates finlandais dans les années 70-80 et leur discours par rapport à l'Europe. Et normalement, c'est des papiers qui sont encore placés tout à fait liés à la couverture entièrement publique, immobiliable. Et puis, il y a des archives personnelles de l'ancien Premier ministre sur ça. Et on voit très bien ces réticences existaient encore et c'était très fort en Finlande. Alors, pour la Finlande, le cas n'était pas. Parce que la Finlande était très liée économiquement au marché de l'Est, hein, environ 17% de ses exportations allaient là-bas. Et puis d'autre part, la présence de l'Union soviétique, on ne voulait pas apparaître comme inamical vis-à-vis d'eux, s'en allant trop vite dans une Union européenne, donc il y avait une sorte d'autocensure du gouvernement à ce sujet-là. Et puis on considérait que c'était un peu incompatible avec la neutralité. La Suède aussi a mis beaucoup de temps à intégrer les Européens parce que justement, ça ne semblait pas compatible avec la neutralité d'entrée dans l'UE. Mais quand la droite a pris le pouvoir dans les deux pays, ça s'est fait comme une lettre à la poste, et les schrödériens locaux ont suivi ce que la droite faisait. Et alors, aujourd'hui, les rapports de force n'ont pas beaucoup évolué sur l'Europe. Les Scandinaves et les Finnois ne sont pas très enthousiastes vis-à-vis de l'idée européenne en soi. Ils y adhèrent par pragmatisme, si vous voulez. Dans leur esprit, c'est difficile de faire autrement. Mais il n'y a pas d'enthousiasme. Et si on devait refaire des référendums, des choses comme ça, les rapports de force seraient à peu près les mêmes. C'est surtout pas trop là aujourd'hui. Très désireux de rester dans l'UE parce que c'est un espace économique ouvert à nos intérêts. Et puis vous savez que les groupes finlandais et suédois, par exemple dans le papier, ou dans la grande distribution, des trusts comme Escalade, etc., ils ont un grand avantage dans l'UE. Alors quand ils étaient en dehors de l'UE, ils étaient dans la AELE, c'est l'association européenne de libre-échange avec les Britanniques. Mais quand les Britanniques sont rentrés dans le marché commun, ça devenait très difficile de rester en dehors. Mais bon, parce que enfin, les grands médias de Nord, oui, sûr que c'est avec le Tarlé, ils vont pas parler de ça sur l'Europe, parce que c'est vraiment un autre modèle par rapport à son discours écologique. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que l'Islande, s'est libéralisé extrêmement rapidement au milieu des années 90 et au milieu des années 2000. Et l'économie de casino est devenue en quelque sorte le parent de la modernité. Et il y a eu un développement du secteur financier absolument gigantesque. Les banques islandaises s'est tentée de spécialité aussi d'attraper les clients dans le Royaume-Uni avec des placements soi-disant exorbitants, etc. Et quand il y a eu la crise de 2008, cette économie de casino s'est écroulée comme jamais, et les Islandais, qui avaient eux aussi souscrit des prêts, alors souvent par exemple pour un jeune arrivait, il disait je suis lycéen, je voudrais acheter une baraque et une bagnole, le type lui disait, mais je vous en prie, monsieur, signez ici, etc. Et il lui avançait la somme. Dans les livres, ce qui est obligé, dans une petite barre, et à vous. Tu vois, c'était un truc complètement fou. Et ensuite, quand il y a eu le choc, pour les Islandais, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait le geste. Et alors, bon, il n'y a pas beaucoup d'habitants hein, en Islande, c'est quelques centaines de milliers. Donc, et les gens, bon, par le bouche à oreille, etc., ont pensé qu'ils avaient supplié les temps des banques pour tenir le truc. Et pas du tout, les Islandais ont réagi autrement, ils ont dit, bah, les banquiers, hein, c'est eux qui nous ont donné donc maintenant, il faut qu'ils marchent. Hein? Et ils ont même exigé la démission des ministres qui avaient pendant des années expliqué que grâce à ce système, les Islandais allaient devenir les plus riches du monde. Hein? Ils ont failli réussir, mais là, ils ont totalement échoué. Donc il y a eu des manifestations extrêmement fortes en 2009-2010 contre le remboursement de la dette. Et puis surtout, ce qui arrive, peut au coudre, parce que les Islandais sont très nationalistes, vous me rappelez à vos auditeurs, la Constitution, les Islandais n'ont pas du tout apprécié que les Britanniques veulent faire payer pour les banques britanniques, soi-disant lésées, les Islandais eux-mêmes. Alors là, c'est l'étranger, ils demandent des sous à l'Islande, alors là, non. Et je pense que ça a beaucoup joué, c'est pas seulement une conscience sociale, c'est aussi une conscience un petit peu nationale et nationaliste. Mais chez les Islandais, aujourd'hui, on l'a vu aux dernières élections, etc., ils ont mis en avant un gouvernement qui est un gouvernement d'assez large union, qui est quand même assez centré à gauche ou à gauche, avec des partis qui ont d'ailleurs, c'est curieux, pas du tout les mêmes options pour l'avenir. Hein. Mais c'est pas très reconnu par les Islandais, mais bon, ils ont donné mission à ce gouvernement de retracer en quelque sorte une voie écologique. Il y a eu l'annulation des dettes, il y a eu des moratoires, il y a eu des négociations. Mais pour eux, c'était plus facile d'abord parce qu'ils n'étaient pas dans l'euro, donc ils n'avaient pas vendu, ils n'étaient pas dans la zone euro. Ils avaient donc plus de facilité à mener ça. D'autre part, ça, c'est quand même à des échelles qui ne sont pas les mêmes que dans les très grands pays d'Europe. Hein. Pour leur connaître. Voilà, en gros, là, je suis convaincu. Mais d'abord parce que tous les patronats n'étaient pas dans la situation du patronat suédois, qui avait été obligé de négocier, vous voyez, dans les années 30, et après, ils n'étaient pas en position de force. Dans d'autres pays, la résistance patronale était beaucoup plus forte, en particulier en France, ça a été un grand combat. Et même des réformateurs centristes, comme Diacor, par exemple, ils se sont quelquefois heurtés à des réticences assez fortes des milieux économiques. Il a fallu argumenter, etc. En fait, il n'y avait pas cette constat. Vous voyez ? Donc, dans d'autres pays, on était beaucoup plus frileux. Et puis, surtout, la couverture universelle suédoise faisait peur en Europe occidentale. Il faut montrer pas de blanche, vous voyez, pour recevoir une aide sociale, etc. Dans ces pays, moins. Alors, en France, par contre, il faut quand même reconnaître le système de santé issu des lois de 46 et en dépit des premières réglementations à partir de 67, a longtemps été supérieur au modèle de santé, même sur quoi. Par contre, où les lois étaient fortes, c'était les allocations familiales, les indemnités chômage, les aides au logement, les aides aux étudiants aussi. C'est des pays qui sont. C'est aussi un petit peu une mentalité protestante, c'est-à-dire le livre, la lecture, l'apprentissage personnel, les cours du soir, tout ça, c'est très bien vu. Et dans ces pays, l'éducation est quelque chose de très important. Donc ça a été tout massivement, si vous voulez. Vous voyez, en France, il y a un mépris intellectuel, un mépris du savoir qui n'existe pas du tout dans le monde. Par exemple, vous voyez, ici, moi je me balade dans mon village, Salut Maurice, encore en vacances, salut Feignant, ça ne me gêne pas, hein. J'ai de quoi répondre, hein, je dis là. Feignant, mais tu bien, quand on est un école ensemble, toi tu étais rien, moi j'ai comme travailleur, donc toi tu es devenu travailleur et moi je suis devenu feignant. Alors là, le mec, j'ai un petit café, il y a un monsieur, hein, et retourne vers. Et donc, ça, c'est pas gênant ça, mais étudier les habitudes comme ça en Finlande, ça n'existe pas, il y a un grand respect. Vous voyez au point que quand j'étais neuf, des fois j'en ai râlé comme ça, je disais en tout cas, surtout, je dis pas que je suis prof, hein, ça va lasser la professeure. Parce que les gens ont un tel, vous voyez, respect, vous voyez, la fonction, etc. Ça vient aussi du fait que le savoir est très valorisé. Et quand vous rentrez dans les familles populaires, vous êtes souvent frappé par le fait qu'ils ont une bibliothèque. Bon, vous voyez, je connais un peu les milieux populaires. Bon, ben, quand je suis issu, je suis là, et tout, il y a des livres de livres, bon, il y a des livres de cuisine. Il y en a des pour moi, d'ailleurs, que dans les pays du Nord, je suis obligé de mal faire la propre. Ça fait que ce qu'on a appris pour les Suédois était lié aussi à des caractéristiques, vous voyez, culturelles. Particulière, puis aussi avec des rapports de force qui n'étaient pas les mêmes que chez nous. Et puis la neutralité, ça c'est très important, c'est-à-dire que chez les Suédois, il y a un orgueil à rester neutre, à être un peu différent, et même leur modèle social, même s'ils avaient la conscience que ça coûtait cher, etc., ça leur donnait aussi une force collective dont ils sont particulièrement fiers. Le moyen de droite, par exemple, en un pays que je connais mieux, il vous dira, oui, c'est quand même bien qu'un type qui travaille, qui puisse bien. On ne considère pas non plus comme choquant le fait que dans les pays du Nord, l'échelle des rémunérations soit beaucoup plus resserrée que chez nous. Hein, ce que vous avez constaté, hein, personne n'est choqué de ça. Il y a plus un respect, si vous voulez, des personnes et des fonctions qui peuvent y avoir chez nous. Il n'y a pas de volonté de ça. Alors que les jeunes se soient laissés avoir par l'individualisme, c'est vrai, mais ça s'est fait dans le cadre d'une sorte de démission idéologique totale de la social-démocratie. On n'imagine pas le naufrage de ces partis. On parle beaucoup du naufrage des communistes. Soviétique, etc., vous observez que dans la Russie d'aujourd'hui, par le communiste est quand même assez fort. Il est aussi très fort en Tchécoslovaquie, vous voyez. Mais là, vraiment, on a des social-démocraties qui se font libérer sur place. C'est impressionnant. Alors, donc, si vous voulez, quand un jeune n'entend qu'un discours, forcément, il est amené à. Il faut combattre certaines idées. Autrement, les autres n'ont pas ça. C'est pas la volonté de discuter avec tout le monde et de se fâcher.
Oui, je veux dire, un minimum, c'est bon, un indépendant de fait de travail. En France, je viens d'avoir même du travail, c'est ça qu'on appelle un privilège, par exemple, en tant que femme, c'est la cause. Et moi,
souvent. Dans les pays du Nord aussi, vous savez, la France, c'est la même difficile. C'est des sociétés qui se sont énormément rapprochées des autres. Je veux dire, le modèle ultra-libéral qu'offre l'Union européenne, il a forcément des conséquences. Et dans le Nord, le chômage est devenu un vrai problème. Il est un peu moins élevé que chez nous, mais même au Danemark, quand on nous demande un petit sécurité, c'est quand même du 7%. Hein. En Suède, on est un peu plus bas, mais ça coûte beaucoup. Mais ça monte aussi beaucoup plus vite, comme ces pays sont libéralisés plus vite. Si vous voulez, on récupère plus d'emplois, mais quand il y a des crises, il y a des licenciements, donc l'effort éducatif reste conséquent, même en cas de dossier. C'est ma langue maternelle. J'adore, hein. Mais tu vois, ils ont un avantage qu'ils ne connaissent jamais, c'est qu'ils apprennent très vite le suédois. Le suédois, c'est une excellente porte vers l'anglais. Et c'est pour ça qu'ils parlent bien anglais. C'est parce que très jeune, ils ont fait la deuxième langue nationale. Eux, alors ils voulaient que le suédois obligatoire, et ils apprennent de maîtriser la chose en oubliant que c'est ça qui leur permet. Mais bon, et puis certains, ils voyagent beaucoup. Mais il y a une obligation, hein, c'est-à-dire que dans les normes modernes, tu vois, être 6 mois dans le noir comme ça, vous voyez bien avec l'hiver assez long qu'on voit aujourd'hui, commence à en avoir marre d'avoir une vie sans arrêt. C'est très dur. Hein. Et donc, il voyage parce qu'il n'y a pas de choix. Il revient. Ça coche pour pas montrer dans le match qu'un jeu, mais il y a des warriors.